discussion du soir. Les discussions du soir, René Friedman.
Les discussions du soir, Yves Bain et René Friedman. Aujourd'hui, nous allons parler de Ignace Philippe Semmelweis. Quand je pose la question à mes collègues médecins, puisque c'était un médecin inconnu au bataillon, si on écoute ce qu'il disait en 61, deux points ouvrent les guillemets, c'est l'indignation qui inspire ma plume. Je croirais commettre un crime en me taisant plus longtemps. J'ai l'intime conviction que des milliers et des milliers de femmes sont mortes qui seraient encore en vie si je n'avais gardé le silence. On est en 1861. En fait, Ignace Semmelweis va être l'homme qui, incontestablement, aura sauvé le plus de vies humaines, puisque à l'époque, et partout en Europe, il y a la fameuse fièvre puerpérale qui emporte entre 5 et 12% des accouchés dans les hôpitaux de ce moment-là, ce qui est énorme, énorme, énorme. Et donc, sa vie est passionnante, et d'autant plus passionnante, Yves Bain, que vous avez écrit de nombreux livres, on y reviendra tout à l'heure, mais vous avez surtout écrit un livre sur Céline, et ce qui est étonnant, c'est que Céline, dans sa thèse de médecine en 1924, sa thèse va porter sur Semmelweis. C'est un peu ce lien qui m'interroge, bien entendu. Alors, première chose, Yves Bain, qui était Ignace Semmelweis?
Alors, Semmelweis est un Hongrois. Il est né à Budapest en 1818. Et il mourra en 1865, à 47 ans. Donc, il est d'une femme... Alors, une sorte d'ambiguïté pèse sur sa filiation.
C'est-à-dire
qu'il était probablement d'origine juive.
Et converti.
Les générations antérieures se sont converties dans l'Empire austro-hongrois pour avoir les mêmes droits que les citoyens hongrois. Et donc, il va poursuivre une carrière d'abord en étudiant le droit, puis ça va à Budapest, et puis ça ne va pas le convaincre. Et il va s'orienter vers la médecine. Et il va faire quelques années de médecine à...
Mais peut-être on pourrait dire, parce que je trouve ça assez étonnant, c'est pourquoi est-ce qu'il fait médecine? Il s'ennuie, bien sûr, en faisant du droit, il part à Vienne, poussé par son père. Oui. Mais en fait, comme il s'ennuie, il y a un copain qui l'amène voir une autopsie. Parce qu'à l'époque, les autopsies étaient ouvertes au public. On poussait la porte et on pouvait voir, parce que c'était assez fascinant. Voilà. Et on est passé de l'interdiction de l'Église à la réalité. Mais c'est ouvert au public. Oui. On n'imagine pas ça aujourd'hui. Oui. Et donc, il va voir un grand professeur, Rokitansky, qui va laisser son nom d'ailleurs sur certaines pathologies, et qui est un as du scalpel, qui a fait, je ne sais pas, 6000 autopsies. Enfin, bon. Et lui, il va être fasciné par ça et ça va faire un tilt. Vous êtes d'accord? Il va, de ce fait, s'orienter vers la médecine.
Voilà, il va s'orienter vers la médecine et il ne va pas être complètement satisfait de ses études à Budapest. Et il va aller à ce qui est à l'époque un peu la Mecque de la médecine, c'est le Grand Hôpital Général de Vienne.
Parce que les Turcs sont venus jusqu'à là.
Oui, le Grand Hôpital Général de Vienne, où il va vouloir apprendre la chirurgie. Et finalement, il va... aller en maternité. Et il va travailler avec deux obstétriciens, l'un qui s'appelle Klein et l'autre qui s'appelle Bartsch. Et il va y passer 2 ans, assez tourmenté d'ailleurs, sur le plan des relations.
Et il va s'apercevoir... Oui, c'était un homme quand même complexe.
Hein. Oui, on y reviendra.
On y reviendra.
Il a un destin assez tragique.
Tragique, totalement, mais en plus, il va mettre des comportements un peu agressifs qu'on peut comprendre et expliquer. Oui. On y reviendra. C'est le psychiatre que vous êtes, il va nous donner quelques fils.
Voilà. Donc, il va étudier la chirurgie, mais par le biais de l'obstétrique, si je puis dire. Et il va constater rapidement que dans le service du nommé Klein, il y a une mortalité post-natale importante. Et par infection, qui, par ce qu'on appelle la fièvre puerpérale. Et puis chez Bartsch, il y a moins de morts. Pourquoi ? Parce que chez Klein, qui était quelqu'un d'assez carriériste et ambitieux, il y a des étudiants en médecine.
Alors, avant qu'on revienne sur ce point-là, c'est quand même une grosse maternité, l'ensemble
oui.
des deux. Hein.
Oui.
C'est que c'est 6000 à 7000 accouchements. Et quand il arrive, en juillet, je vais noter ça, oui. il y a 13% de mortalité, en août 18% et en septembre 14%. C'est,
oui.
encore une fois, énormissime.
Énorme.
Et alors, il constate ce que vous dites, Yves Bain, c'est-à-dire une différence. Pourquoi
voilà.
est-ce que dans une des cliniques, les femmes meurent beaucoup
oui.
plus que dans l'autre ?
Voilà. Et chez Bartsch, le personnel, disons étudiant, est constitué de sages-femmes ou d'étudiantes en sages-femmes. Ce qui fait qu'elles n'ont pas le rapport qu'ont les étudiants en médecine avec l'anatomie et en particulier les dissections. De cadavres.
Justement, ça va être la clé dans toute sa
oui.
vie. Il montre que des étudiants font des autopsies
oui.
et viennent ensuite examiner les parturientes sans autre forme de procès.
Voilà. Ah. Et lui-même l'a constaté sur son propre comportement.
Et ça va le rendre malade.
Voilà.
Ça va le rendre malade parce qu'il va comprendre oui. qu'il a été lui-même le vecteur de quelque
vecteur.
Chose. On ne sait pas de quoi, parce qu'à l'époque,
oui.
on est
oui.
avant Pasteur, et
oui.
donc il n'y a pas de microbe.
Oui.
Mais qu'il est sans doute, parce qu'à chaque fois qu'il intervient, finalement, la mortalité réaugmente.
Voilà. Donc, il s'interroge. Et alors, de manière tout à fait empirique, il s'aperçoit que s'il se lave les mains, il est moins contaminant, si je puis dire. Et surtout, chez Bartsch, il n'y a pas de problème de contamination, sauf ça serait si c'est lui qui l'introduit, en tant que médecin.
Donc c'est la gloire des sages-femmes.
Voilà.
Encore, voilà, voilà. qui continue aujourd'hui.
Et donc, il va passer 2 ans à l'hôpital général de Vienne, et il va essayer d'imposer sa remarque empirique sur le lavage des mains, de manière un peu maladroite, et un petit peu agressive, comme ça, et évidemment... Les patrons comme Klein, qui est très imbu de lui-même, etc., vont pas supporter que ce Hongrois vienne leur donner des leçons à eux, les grands médecins viennois.
Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème de fond, cette mortalité, le fait qu'avec l'eau de Javel ou avec la chlore de chaux, on peut effectivement se désinfecter mieux qu'avec l'eau savonneuse. Et puis, il y a le problème de comportement humain qu'on va retrouver tout à l'heure quand on va parler de Céline.
Oui.
Je dirais ce comportement agressif.
Agressif et de conviction aussi, de grande détermination à imposer. Il a entrevu une partie de la vérité, donc il veut la révéler.
Alors, il se passe aussi qu'en chirurgie, puisque la chirurgie l'intéressait, c'est quand même une vraie catastrophe à l'époque.
Oui.
9 personnes sur 10 décèdent.
Oui.
C'est quand même...
De pioïne. Oui.
C'est-à-dire d'infection et oui. encore une fois... Il faut bien se remettre dans cette période. On ne connaît pas les microbes.
Non, non.
Hein Donc lui, il va évoquer des miasmes,
oui,
quelques,
oui.
il va utiliser des mots. Il dit, il y a quelque chose qui est transporté
oui.
Des cadavres à ces personnes parturientes. Et puis, il va se passer qu'il y a une femme qui n'est pas du tout morte, mais qui a une infection au genou,
oui.
qui va être dans un lit à côté de 12 autres.
Oui.
Et que l'infection va se propager toujours de la même façon. Et donc, on va comprendre que ce n'est pas uniquement cadavérique, mais
oui.
c'est aussi l'infection en tant
que telle, le pus,
oui. qui va effectivement entraîner cette catastrophe. Alors, il y a des théories incroyables qui sévissent, parce que les gens ne veulent pas voir cette étude scientifique. En plus,
oui.
c'est vraiment presque le principe de la recherche. Hein. Il
oui.
a une étude randomisée, il a d'un côté une maternité où il y a des étudiants, l'autre où il n'y en a pas, et là on a des résultats catastrophiques, et là pas. Donc il y avait déjà des essais qui se sont faits à Dublin en particulier, ou à Harvard, de désinfection. Mais particulièrement ceux qui ne le font pas ont une mortalité redoutable. Alors, on se trouve là avec des gens qui sont complètement, mais en Europe, y compris en France. Le professeur Dagneau à Paris va déclarer que, alors ça c'est assez extraordinaire, il va déclarer que la fièvre puerpérale est propagée par les femelles. Et quelque part, c'est la faute des femelles. C'est repris d'ailleurs là dans une revue féministe « Comment s'en sortir ?» où il montre qu'il décrit... Ben oui, alors les chiennes, il y a eu des épisodes de chiennes de fièvre puerpérale, de poulets, d'oiselles, d'oiselles. Mais manque de chance, les oiselles n'ont pas... pas mademoiselle, mais les oiselles n'ont pas d'utérus.
Oui.
Donc on en arrive, et c'est un peu le thème de cette revue, sur finalement, on bouge pas beaucoup, les femmes meurent en couche, à la limite, ça fait partie de la nature, on souffre pour l'accouchement, on meurt pour l'accouchement, et on est envahi d'une mortalité, y compris des nouveau-nés, hein, puisqu'il y a quand même 6 sur 10 qui passent pas la deuxième année. Donc on est quand même dans un monde où les grands pontes en Europe, y compris en France, en Angleterre, acceptent cette fatalité et vont essayer de trouver des causes plutôt telluriques, plutôt magiques. Et lui, il va poursuivre jusqu'à lorsqu'il va revenir, il va prendre la chefferie de service, et il va retourner à Budapest parce que est quand même un peu étranger à Vienne.
Il est viré
justement
par la commission hospitalière, bien qu'il soit défendu par des notabilités comme Skoda ou Rokitansky qu'on a cité tout à l'heure, et Ebra, qui étaient des grandes notoriétés à l'époque. Il a été défendu quand même, mais il a été exclu de lui, et il est reparti à Budapest en 48 au moment de la révolution hongroise. Il a adhéré au principe de la révolution hongroise.
Une certaine autonomie, qui est à ce moment-là.
Et il a eu des années d'errance. Il a été très affecté par son éviction de la maternité de Vienne, mais aussi du fait de la non-reconnaissance de sa découverte empirique. Et il va être assez misérable, hein. Il va vivre dans une chambre minable, il va donner quelques consultations et tout, mais il est pas tout à fait, jusqu'en 1856, il va être un petit peu freelance, comme ça.
Et en plus, il a des catastrophes, puisqu'il va perdre un premier bébé, vite, et puis une petite fille à l'âge de 2 ans, ça commence très mal.
Il est très affecté par tout ça.
Il perd aussi ses amis, par des infections.
Ah oui, alors, c'est le fameux cas de Kolenska, qui était professeur d'anatomie, et dont il apprend la mort lors d'un voyage à Venise, qu'il fait avec son grand ami Markovitch. Et là, il y a un tilt, parce qu'il comprend que c'est à la suite de la putréfaction qu'on transmet par les mains. Donc, il y a un lien direct de causalité entre le tripatouillage des cadavres, si l'on veut.
Oui, parce qu'il a constaté que Kokoska, là, il a les mêmes symptômes, la même infection, le pus partout, que les parturientes.
Voilà. Donc là, il établit clairement la cause. Plus que la découverte empirique, là il dit il y a quelque chose qui se transmet. Et alors évidemment, comme vous le disiez, on est avant l'ère pastorienne, donc il n'y a pas le qualificatif de microbes. Mais il établit vraiment un lien de causalité et il se lance dans la rédaction de son gros ouvrage, l'étiologie de l'infection puerpérale, qui va être publié en Hongrie. Et en 56, il devient l'assistant à la maternité Saint-Roch de Budapest, où il peut appliquer ses méthodes, mais là encore, il est assez maladroit, et même son protecteur, qui s'appelle Berkeley, qui est un homme bienveillant, etc., va être un petit peu excédé, mais il va mourir. Alors donc, la succession va être assurée par Semmelweis, qui aura donc une position institutionnelle importante, là. Et il va essayer de divulguer ses méthodes, justement, en Europe. Il va envoyer un de ses assistants, qui s'appelle Arnett, en particulier à Paris.
À Paris, oui.
Où Arnett va expliquer la méthode et les hypothèses de Semmelweis, qui vont intéresser personne.
C'est assez extraordinaire de voir à ce moment-là les pompes de l'époque. Quoi.
Oui.
Je veux dire, mais rejeter totalement cette idée et oui. avec aucune autre solution.
Aucune autre solution.
Et quand on regarde les registres de la maternité de Pont-Royal, qui était une des grandes maternités de l'époque, 1850 et tout ça, et qu'on a, vous avez la photo du grand cahier avec les traits. Qui indique les patientes décédées. On peut comprendre que quand il est à Vienne, il voit des femmes. Alors, il y avait une histoire assez drôle, si je puis dire. C'est que il y avait des urgences qui étaient. On était de garde, une maternité sur l'autre, les deux là qui avaient des taux différents de mortalité. Et donc il y a des femmes qui arrivaient quand elles savaient que c'était telle maternité là où il y avait les étudiants, enfin là où il y avait une mortalité qui était reconnue
chez haute,
chez Klein. Elles voulaient absolument pas y aller. Elles préféraient accoucher dans la rue.
Et il y avait moins de mortalité.
Donc on était quand même voilà. Alors la mortalité maternelle, c'est pas fini, même aujourd'hui. Il y a encore 10 décès pour 100 000 accouchements, c'est pas rien. Évidemment, là je parle des pays je veux dire, industrialisés, alors que dans le monde, il y a encore un nombre incalculable de mortalités maternelles qui préoccupent, puisqu'on est entre 200 et 800 pour 100 000 au lieu de 10, dans des pays, enfin dans l'Afrique en général, quoi, par exemple. Et puis il y a toujours dans ce système qui veut être... efficace parce qu'on va offrir un lieu d'hospitalisation, on ne soigne plus, on ne peut pas opérer à domicile, etc. Il y a les fameuses infections nosocomiales.
Oui.
C'est les infections qu'on attrape alors qu'on en était porteur de rien, on était dans tous les cas pas atteint d'infection, et on va les choper à l'hôpital avec des cas célèbres et moins célèbres, mais en tous les cas, redoutables. Et donc une tentative aujourd'hui, de tenir compte de ses écrits et de son action à Samuel Weiss, avec la constitution des CLIN, c'est-à-dire des comités de lutte pour contre les infections nosocomiales, et avec un Irlandais qui a inventé la solution alcoolique, celle où, avec laquelle on doit se laver les mains en permanence lorsqu'on est en collectivité et être ne pas transporter, si on ne fait pas des examens, mais ne pas transporter en tous les cas les microbes. Donc c'est une thématique qui reste tout à fait d'actualité. Et d'ailleurs, dans Révolution médicale, il y a quelque temps, on avait fait une émission sur l'infection et sur le rôle possible des phages qui ont été développés en Russie comme ce sont des virus qu'on trouve dans les endroits les plus glauques, dans les égouts et tout ça, mais qui ont le pouvoir de combattre des bactéries. Alors je dis pas que la solution elle est là, mais il y a des études aujourd'hui qui se font pour essayer toujours de lutter contre ces infections nosocomiales. Alors Yves Bain, dans ces écrits que vous avez faits, en particulier sur Céline, on va y revenir dans un instant, mais sur Samuel Weiss lui-même, sa fin est quand même extrêmement tragique.
Ben oui, parce que il est très déprimé en général. Il va développer des éléments de persécution.
Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que psychiatre ?
Toujours difficile sur une personne qu'on n'a pas rencontrée,
bien
avec
sûr.
Laquelle on n'a pas eu de relation vivante, et que des témoignages ou des écrits, éventuellement, de se prononcer. C'est un petit peu de la haute voltige, quand même. Mais on peut considérer qu'il avait... peut-être une réaction de type paranoïaque à ce qu'il vivait comme une agression du monde extérieur. Donc il a décompensé sur le mode dépressif, mélancolique, et sur le mode agressif, c'est-à-dire qu'il a essayé de convaincre par des méthodes un petit peu de propagande. Alors ce que dit Céline, on y viendra, mais dans sa thèse, qu'il aurait affiché son manifeste pour la prophylaxie, pour le... l'infection puerpérale, qu'il l'aurait affiché sur les murs de Budapest et tout ça, c'est pas établi.
Céline dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies texte sur Samuel Weiss.
Voilà, mais ça c'est la manière de Céline de...
Mais bon, il y a une ambiance quand même de cet homme isolé, révolté, et qui perd peut-être un peu les
Et alors, il semble qu'il va s'infecter accidentellement.
Parce que par une autopsie. C'est la boucle, quoi.
Voilà, c'est un peu la boucle. Il va s'infecter accidentellement cette fameuse piqûre anatomique qu'on connaissait, c'est-à-dire dont était mort Kolenska, qui l'a éveillé sur la causalité directe. Donc il va à partir de cette piqûre et de sa situation difficile à Budapest, puisqu'il irrite tout le monde, il embarrasse tout le monde. Il a des comportements, par exemple, je crois qu'il a été quand même suffisamment connu et reconnu pour être, par exemple, invité à faire un diagnostic sur un membre de la famille royale, une femme. Mmh. Et il la consulte le matin et il lui dit « Vous avez un cancer de l'utérus ». Bon. Et puis, il réfléchit, dans la journée, il n'est pas tout à fait satisfait de son diagnostic. Et le voilà qui débarque dans la nuit, à la cour, qu'il bouscule les gardes du corps et tout ça. Il entre violemment dans la chambre nuptiale et fait un nouveau toucher vaginal. Et il dit, madame, vous n'avez pas de cancer de l'utérus, je me suis trompé ce matin, vous avez une métrite. Voilà ce type aussi.
Une infection de l'utérus.
De l'utérus, qu'on peut soigner. Et il, voilà un peu aussi ce type de comportement qu'il a, qui était absolument atypique. Donc il va fin juin 1865 se piquer et là la fièvre qui va être corrélée à l'infection va le faire délirer. Il va délirer. Ce qui est à tel point que ses amis décident de le transporter à Vienne pour qu'il y soit soigné à l'asile d'aliénés.
Oui, il est pris au piège parce qu'il se rend pas compte, il pense que c'est pour autre chose.
Oui.
Puis finalement, on le pousse à la psychiatrie.
Et il va mourir après 3 semaines d'agonie dans des souffrances.
Alors on a évoqué quand même éventuellement un suicide.
Oui, qu'il l'aurait fait exprès de se contaminer.
Ouais.
Bah oui, mais comment le prouver ?
Ouais.
Comment le prouver ?
Enfin voilà, un destin tragique
d'un
homme qui n'est pas assez reconnu.
Voilà.
Et qui a vraiment été omnibulé par sauver l'humanité, en particulier par les femmes, et autour de la reproduction, on va dire, des accouchements. Donc on peut comprendre qu'il y a un certain nombre d'ouvrages aujourd'hui, comme celui de Robert Delavaux, comme celui de Michel Devaux, tout ça à l'Harmattan, et puis la republication donc de cette thèse de Céline que nous allons aborder dans un instant. Discussion du soir, Yves Buin, merci de nous avoir amené cette musique de jazz. Vous êtes un écrivain, un médecin, mais surtout un écrivain. Vous avez abordé tellement d'artistes de jazz et vous aimez cette musique au fond de vous-même. Et c'est un grand plaisir de prendre un peu de distance sur l'histoire qu'on vient de raconter. Et ça permet de voir un peu en image ce personnage de Samuel Weiss. que l'on méconnaît trop, mais peut-être après cette émission, on aura une meilleure idée de lui-même. Alors, le lien entre Yves Buin, qui est en face de moi, Samuel Weiss, qui est derrière, et puis Céline, qui est je ne sais où, parce que Céline, à l'âge de 30 ans, quand il va écrire sa thèse en 1924, mais qui ne sera publiée que plus tard, sa thèse, c'est Samuel Weiss. Alors, moi, ça m'a interrogé. Pourquoi est-ce que Destouches, à l'époque, qui n'est pas encore Céline, va publier quelque chose sur Samuel Weiss?
Alors, l'origine, c'est que le professeur Brindeau, qui était à Tarnier, qui est un grand obstétricien...
La clinique de Tarnier, accouchement à Paris.
Accouchement à Paris, qui est un grand obstétricien reconnu... peut-être pas mondialement, parce qu'à l'époque, les communications... Mais enfin, qui est reconnu au niveau de l'Europe, c'est clair.
D'ailleurs, je pense, Tarnier est un des seuls qui va, au moment de sa leçon inaugurale, va rendre hommage à Samuel Weiss.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc on est à Tarnier, et on est avec Brindeau.
Donc rue d'Alsace. Et Céline fait son stage d'obstétrique dans le service du professeur Brindeau, qui remarque le caractère un petit peu particulier de cet étudiant en médecine, qui termine sa médecine à Paris, Céline, et, puisqu'il fait son stage en 1923, je crois. Et il lui dit, vous avez là matière à un roman. Et il lui dit aussi, vous devriez écrire de la poésie. Brindeau, qui remarque Céline et qui remarque cette particularité chez Céline d'être un écrivain en herbe. Et c'est lui qui lui suggère de faire sa thèse sur Samuel Weiss. Et Céline découvre Samuel Weiss et va s'identifier totalement à Samuel Weiss. Pour des raisons qui sont dans le destin tragique de Samuel Weiss, prophète mais non reconnu, se battant contre la terre entière et dépositaire de la vérité.
Vous pensez que c'est ça, Yves Buin, qui... a attiré, je veux dire, dans le personnage, enfin, ce modèle du héros méconnu, quoi.
Voilà, c'est fondamental. Et qui, vraiment, aussi avec cette ambiguïté que je signalais tout à l'heure sur la filiation de Samuel Weiss, parce que Céline l'appellera « mon demi-juif », et à un moment, quand il sera célèbre après « Voyage au bout de la nuit », il y a un scénariste hollywoodien qui s'appelle Ben Hecht, qui est connu, bien sûr, pour tous les scénarios qu'il a pu écrire, qui a envie d'écrire un scénario et faire un film sur Samuel Weiss. Et dans la correspondance que Céline a avec son agent américain, qui négocie avec Ben Hecht la possibilité de faire un Samuel Weiss, Céline dit il devait être juif. Voilà. Non, je dis ça parce que, sans entrer dans cette période célinienne des pamphlets, etc., qui n'est pas l'objet de notre émission, bien sûr, mais simplement pour dire que sans probablement le caractère de la judéité possible de Samuel Weiss a aussi joué en Céline. Probablement. À un niveau très inconscient. Alors, je ne veux pas m'aventurer sur des pistes trop contestables.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'en 1924, Céline était déjà l'antisémite qui va devenir ?
Non, il n'y avait pas d'écrit. Dans les premiers écrits de Céline, à part l'Église, mais là, il se moque de Rachman à la SDN, mais enfin, c'est un autre sujet. Il y a dans Le Voyage au bout de la nuit, dans Mort à crédit, il n'y a aucune allusion à l'antisémitisme. Aucune.
Ça va venir après.
Ça va venir après, pour des circonstances existentielles, qui vont nous rappeler Samuel Weiss. C'est-à-dire que Céline a écrit cet énorme Mort à crédit, où il a dit, comme il l'a dit, j'ai mis ma peau sur la table. Et à tort ou à raison, il a pensé que la critique était passée à côté de son livre, il avait dédaigné cet effort colossal qu'il appelait le monstre, le Mort à crédit. Céline appelait ça le monstre, tellement il était un manuscrit de 1000 pages, qui a rénové... à tort ou à raison, on peut en discuter, c'est un point de vue esthétique, mais qui a rénové le roman français. Et c'est à l'issue de ce qu'il a vécu comme l'échec relatif de Mort à crédit qu'il a commencé à écrire ses pamphlets. Alors que les critiques les plus favorables à Céline étaient des critiques d'origine juive. pour ses deux premiers ouvrages, j'entends.
Et d'ailleurs, la thèse sur Samuel Weiss, il va la publier non pas en 24, parce que là il est rien, mais en 36.
En 36.
C'est-à-dire justement à la période que vous évoquez.
Voilà. Alors c'est quand même intéressant, sans qu'on puisse le développer beaucoup, ce rapport à la judéité possible de Samuel Weiss, mais comme persécuté et comme victime d'une espèce de pogrom intellectuel. Et Céline va complètement s'identifier à cet homme. Et alors, il va écrire une thèse qui est un morceau littéraire de très haut niveau, je trouve.
Où Céline peut conseiller aux auditeurs de le lire. C'est assez bref, effectivement.
Oui, c'est une thèse de 120 pages.
Mais c'est pas du tout une thèse médicale.
Enfin, non, c'est une thèse littéraire.
De l'histoire de Samuel Weiss qu'on vient de résumer.
Mais il a eu un prix de jury. Il a eu la médaille de bronze de la thèse. Et on peut s'interroger sur le fait que qu'est-ce que le jury a pu comprendre, à part Brindot, qui était président du jury, qu'est-ce que le jury a pu comprendre de cette démarche de Céline, qui est une espèce de morceau littéraire de très haut niveau, j'insiste, avant qu'il subvertisse la langue française. On sent que Céline possédait parfaitement le classicisme français, qu'il était amoureux de la langue française. Alors c'est une sorte de fresque hugolienne, puisqu'il parle de Napoléon, de Corvisart, qui était le médecin de Napoléon, pour nous introduire dans l'Europe centrale par son rapport à Napoléon et comment les héros sont nés. Comme ça. Et alors donc, cette identification de Céline est évidente. Et il va dire des choses essentielles dans cette thèse. Par exemple, il va dire, depuis les temps immémoriaux, la vie est une ivresse et la mort est victorieuse.
La
vérité, c'est la mort.
C'est vrai qu'il y a des points communs. Il y a l'identification profonde que vous dévoilez. Et d'ailleurs, j'invite bien sûr les auditeurs à lire votre livre sur Céline Folio, publié, parce que vous parlez de Samuel Weiss et de cette identification. Moi, j'ai remarqué aussi, il y a le rôle du père. Hein. Chacun, ils ont un père qui les suit quand même de très près, qui les soutient à l'époque. Oui. Ils vont tous les deux migrer loin de leur domicile pour faire leurs études. Ils vont faire tous les deux une médecine relativement tardivement.
Céline commence à 25 ans.
Donc c'est assez incroyable parce qu'il va rattraper du fait de la guerre. Qu'il a fait la guerre de 14-18. Ils ont un droit de manger quelques années. Et puis évidemment, ils vont tous les deux être exclus de leur milieu et tous les deux à la recherche du mal. Alors l'un, ça va être sociétal, et puis l'autre, ça va être plus médical, autour des microbes, mais lui aussi, l'autre aussi, il chasse les microbes, mais c'est pas les mêmes.
Oui, alors il y avait une attirance de Céline pour tout ce qui était bactériologie, etc.
Alors, justement, parce que, en fait, Céline, on l'oublie, mais il a aussi écrit quelques écrits médicaux, qui sont publiés d'ailleurs dans les cahiers Céline numéro 3 chez Gallimard. Parce qu'il a fait un petit parcours, quand même. Non seulement dans l'exercice médical, qui était un peu, mais qui était un peu particulier, parce qu'il était très. Alors, tous les deux, Samuel Weiss et lui, sont attirés par le social, par le côté social. Oui. L'un, une échelle très personnelle et un peu sporadique. Et l'autre, il veut vraiment sauver l'humanité. Mais ce que je trouve, c'est que le point qui diffère énormément, justement, vous l'avez dit, c'est que Céline, il est fasciné par la mort.
Oui.
Il est complètement. Lui, il se protège bien.
Oui. Enfin,
soyons clairs.
Oui.
Lui se met à l'abri, il a mis son or de côté, ses sous de côté, il se protège, il sait comment jouer sur tous les tableaux pour être en prison, mais éviter la peine de mort.
Oui.
Enfin bon. Alors que Samuel Weiss, lui, il va au-devant de la piqûre et il se dévoile complètement et il est fasciné par la vie.
Oui.
C'est-à-dire qu'il veut, lui, il va mourir,
mais
il va donner la vie. Et l'autre, il va se vivre au maximum, mais il va donner, par ses écrits, les pamphlets, la mort.
Oui, oui. C'est-à-dire que... Alors, on pourrait penser aussi que Céline, qui était effectivement obsédée par la mort, et qui avait une désespérance quasiment absolue. Je veux dire qu'il y a multiples citations où il dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est pas du tout un partisan de la vie. Il a dit « Ma mère a voulu que je naisse », c'est ce qu'il n'aurait pas pu faire, c'est ce qu'il aurait qu'on aurait dû ne pas faire. Donc, vous voyez, c'est, ça va loin. Et je pense qu'à certains moments, la désespérance...
Oui, mais je dis que tout en disant ça, il se protège bien.
Oui. Ah. Bah, il a eu une vie... Bon, ça serait trop long à développer, mais...
Il a eu
une vie difficile. Hein. Je reviens sur cette désespérance qui faisait que peut-être... Freud avait interrompu la lecture de Voyage au bout de la nuit. Il lisait le français, Freud. Hein. Et il y aurait beaucoup de choses à dire, par exemple, du rapport de Céline à Freud. C'est passionnant. Et Céline a connu Freud avant tout le monde, pratiquement. Il y a une lettre qu'il a écrite à un médecin généraliste qui s'appelait Thomas en 1921. Donc Céline a 24 ans, 26 ans à ce moment-là. Il commence ses études de médecine. Et il a écrit une lettre tout à fait pertinente sur une lecture qu'il a eue d'articles de Freud. Et il situe très bien ce qu'on appelle le transfert, par exemple. Ce qui est remarquable en 1921, où la psychanalyse était considérée non seulement comme une science boche, mais une science juive. Ce que voulait pas Freud. Il voulait absolument pour ça qu'il avait intégré Jung dans son école, en disant au moins il y en aura un qui est protestant. Et, parce que c'était une science universelle, évidemment, la psychanalyse. Et Céline avait perçu ces choses-là. Et alors que les médecins français de l'époque, on pouvait les compter sur les doigts de la main, ceux qui acceptaient la psychanalyse en 1920. C'est les surréalistes qui étaient au courant de la psychanalyse. Breton et Dali avaient été voir Freud à Vienne en 1921. Donc, et Céline, dans ses pérégrinations à la SDN, etc., était allée à Vienne et il avait rencontré l'éditeur de Freud. Il avait eu notion d'un texte, il avait rencontré des analystes viennois, qui était quand même une très grande école. Il n'a jamais rencontré Freud, hein, mais il avait rencontré Madame Angèle, il avait rencontré la femme de Wilhelm Reich, Annie Reich, et il avait demandé à une de ses femmes allemandes, parce qu'il a eu des nombreuses conquêtes féminines, Céline, de lui traduire « Deuil et mélancolie », le texte de Freud.
De Freud.
Et parce que Céline était fondamentalement mélancolique. Sans aussi revenir sur ce que je disais tout à l'heure, qu'on peut pas faire des diagnostics de haute voltige. Lorsque j'ai eu des rencontres avec des critiques à propos de ma biographie de Céline que vous avez évoquée, du fait que j'ai ma formation professionnelle de psychiatre, on voulait absolument que je fasse des diagnostics de Céline. Mais je veux pas. Je ne consulte que ses écrits.
Alors dans ses écrits, justement, quand il est à la SDN, pour rester sur le thème médical, Céline, il va faire des rapports sur la médecine sociale, sur le rapport au travail, en particulier quand il va faire ce voyage en Louisiane ou bien les usines Ford. À Détroit, ou encore sur les assurances, pour les assurances sociales, où il va développer l'idée de faire des cours internationaux d'hygiène. Donc on le voit effectivement, et alors voilà, il est préoccupé par l'hygiène, ça c'est avant sa thèse.
Oui.
Il a fait beaucoup de voyages, il va en Afrique, il va en Amérique du Sud, il va aux États-Unis. Il est très préoccupé par l'hygiène, et donc, évidemment, en 24, quand il va écrire sur Semmelweis, il est sur l'hygiène.
Bien sûr.
Prouvé, puisque là, à ce moment-là, on rend hommage à Semmelweis qui a démontré contre tous que effectivement le problème de l'hygiène c'est capital. Vous avez lu ses écrits médicaux. De Céline, hein, j'entends. Qu'est-ce que vous en ressentez?
Alors d'abord ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que Céline est fondamentalement hygiéniste et quand il travaille au dispensaire de Clichy où il sera salarié après avoir abandonné les cabinets qui ont périclité, parce que Céline n'était pas...
Pourquoi ça lui fait rire? Parce que c'était pas un commerçant.
C'était pas un commerçant, puisqu'il il allait jusqu'à dépanner les malades.
C'est lui qui payait la consulte. Merci de me faire une consultation, ça me détend.
Donc, il était un médecin des épidémies. C'était le label qu'avaient les médecins des dispensaires. Médecin des épidémies. Alors, à l'époque, traitait la tuberculose beaucoup, la prophylaxie de la tuberculose et des maladies vénériennes.
Bien sûr.
Et à Clichy, Céline avait une clientèle de pauvres. Et donc il avait une sensibilité à la question sociale, qui est le deuxième pendant. Il était hygiéniste, mais ça, il tenait ça de ses parents. La tuberculose, le signifiant tuberculose, est entré très tôt dans sa vie.
Il y a des gens qui sont décédés dans son entourage?
Non, c'était que sa mère l'a confié à une nourrice dans Lyon parce qu'il y avait une suspicion de tuberculose. Et donc Céline a très vite été dans le bain, si je puis dire, de tout ce qui était microbien. À la maison, il y avait sa mère était une femme de ménage exemplaire, il n'y avait pas un grain de poussière. On était dans la phobie des microbes et des choses comme ça.
Mais on ne peut pas dire qu'à la fin de sa vie, il en a tiré des leçons, parce que le bordel à Meudon, le bordel dans sa tête, soyons clairs. Mais enfin, je veux dire, il en faisait état.
Oui, oui, c'est un acteur.
Un acteur, c'est ce que je dis, c'est que...
séducteur.
Voilà, il en fait un acteur, c'est que, en même temps, il crie effectivement sur l'inexorabilité de la mort et la hantise de la mort, mais encore une fois, peut-être dans des situations qui sont pas... il vit pas dans un château et dans des conditions comme ça, ça aurait été quand même le comble. Oui. Mais il se protège au maximum.
Oui, oui, bien sûr, c'est un être humain, hein, ça aussi. Mais alors, pour revenir donc sur le deuxième pendant de la médecine sociale, il supporte pas la pauvreté, ni l'alcoolisme, ni ces choses-là. Donc il va prendre conscience quand même du caractère social, de la possibilité de la causalité sociale des maladies. Il va soutenir les assurances sociales, il va écrire, comme vous le dites, sur la médecine du travail, il va écrire sur le chômage.
Alors ça quand même, est-ce qu'il a bien vu les usines Ford, qui étaient aussi d'ailleurs en l'occurrence un antisémite notoire ?
Oui.
On pense que finalement, il faut donner du travail aux pauvres, aux gens qui sont handicapés. Quelle est sa situation ? Comment il analyse ça ?
Il a passé 3 jours aux usines Ford. Mais alors, c'était un remarquable observateur, hein, tout le monde le dit. C'est-à-dire qu'il a lu des textes, parce qu'il était bilingue, il lisait très bien l'anglais, il le parlait. Il a été sensible à la manière dont une entreprise pouvait prendre en charge, justement, les handicapés, leur trouver des fonctions adéquates, adaptées à leur handicap, etc. Il a trouvé ça très nouveau. Et donc, ce côté, il a travaillé dans des lieux minables. Après, il est allé à Beson, il a travaillé à Sartrouville. Tout ça, c'est la banlieue. Céline est un homme de la banlieue. Il a reconnu la banlieue. Il a écrit même un texte assez magnifique sur la banlieue. Donc, c'est un personnage, qui, je pense, par le truchement de l'hygiène et de la préoccupation sociale, se retrouve encore près de Semmelweis.
C'était le sujet de cette discussion, de nos discussions, Yves Buin, pouvoir aborder Semmelweis, grand inconnu, Céline, malheureusement trop connue pour des choses condamnables, mais qui a, en 1924, en tous les cas, fait cette jonction que nous reprenons grâce à vous et grâce à vos écrits, en particulier cette fantastique biographie sur Céline que vous avez écrite et publiée chez Folio. Cette émission de René Friedman avec Catherine Donnet, Didier Lagarde et Emmanuel Couturier, c'est Discussion du soir, ce que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture, franceculture.fr, et sur le site de notre partenaire, Le Quotidien du Médecin, avec qui nous sommes en collaboration. La semaine prochaine, Axel Kahn nous parlera génétique, société, humanisme.